Radio Vatican, France et Afrique.
Mesdames et messieurs, amis auditeurs, vous êtes bel et bien à l'écoute de Radio Vatican. Bienvenue dans ce nouveau numéro de notre programme. Le pape François poursuivait sa catéchèse sur la vieillesse lors de l'audience générale ce mercredi. Le diocèse d'Idiofa en RDC célèbre ses 100 ans d'existence. On en parlera en actualité de l'Église. Et en actualité sociale et politique, la Journée mondiale de l'Afrique a été célébrée aujourd'hui 25 mai. Tenez-vous bien, les détails, c'est tout de suite dans ce programme que nous émettons depuis la Cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Donatien Niembo.
Les personnes âgées rempart contre la CEDI. Cette maladie de l'âme entre indifférence et capitulation a été dénoncée ce matin par le pape François. Poursuivant son cycle de catéchèse dédié à la vieillesse lors de l'audience générale, l'évêque de Rome a livré quelques pistes pour combattre cette sorte d'intuition négative qui plombe l'espérance. Le pape qui compte donc sur les plus anciens pour l'affronter. Marine Henriot.
Sur la base de l'Ecclésiaste, le pape s'est arrêté sur cette voie de l'indifférence qui peut parfois apparaître comme seul remède aux désillusions douloureuses. Or, il n'en est rien, ce désenchantement doit à tout prix être évité, particulièrement chez les personnes âgées. Si les personnes âgées gardent intacte leur passion pour la justice, alors il y a de l'espérance pour l'amour et aussi pour la foi, a assuré le pape, et de regretter la culture qui aujourd'hui prétend tout mesurer, tout manipuler, pour finalement produire une démoralisation collective que les anciens appelaient assédie. Attention, cette nouvelle raison cynique qui dispense de la moralité fait de nous une société fatiguée, a estimé François, prévenant contrer la tentation de tout savoir, du délire d'omniscience. Nous qui étions censés produire un bien-être généralisé, nous tolérons un marché de la santé scientifiquement sélectif. Nous étions censés mettre une limite insurmontable à la paix. Nous voyons de plus en plus de guerres. La science progresse, mais la sagesse régresse, a constaté le Saint-Père, qui en appelle donc aux personnes âgées pour mettre en lumière toutes ces tromperies cachées grâce à leur humour, leur expérience et grâce à leur passion pour la justice. Nous avons une mission très grande dans le monde.
Mardi dans la soirée, le pape François avait envoyé un télégramme à Mgr Raymond Poisson, président de la Conférence épiscopale du Canada. Ayant été informé des récentes tempêtes qui ont frappé les sud-est du Canada, causant des pertes de vie et des destructions étendues, sa sainteté le pape François offre ses prières pour tous ceux qui souffrent des effets de cette calamité. Il recommande les âmes des défunts à la miséricorde des membres des dieux tout-puissants et assure les blessés et ceux qui sont dans le deuil de sa proximité spirituelle. Peut-on lire dans le télégramme signé par le cardinal Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège. Un autre télégramme mardi soir, c'était à Mgr Geoffrey Walsh, évêque de Gaylord, en marge de la perte tragique des vies humaines et les destructions causées par la tornade qui a frappé la communauté des Gaylords ces derniers jours. François a offert l'assurance de prière pour les morts, les blessés et les personnes déplacées, ainsi que pour ceux qui participent aux efforts de secours. Deux prêtres et deux de leurs collaborateurs ont été enlevés dans le nord du Nigeria. Cette information a été confirmée par le père Christopher Omotosho, directeur des communications sociales du diocèse de Sokoto. « Nous n'avons aucune information sur leur localisation », a dit le prêtre. « Je vous demande de prier pour leur sécurité et leur libération ». Et toujours au sujet du diocèse de Sokoto, l'association chrétienne du Nigeria exige la protection pour Mgr Matthew Kuka, évêque de Sokoto, après que ce dernier ait vivement dénoncé l'assassinat de Deborah Yakubu, étudiante chrétienne lynchée le 12 mai pour un prétendu blasphème. Mgr Kuka avait décrit le lynchage de la jeune fille comme un acte criminel et inhumain qui n'a rien à voir avec la religion, soulignant aussi qu'au Nigeria, les chrétiens et les musulmans avaient toujours coexisté pacifiquement au fil des ans. Direction RD Congo, où le diocèse d'Idiofa a célébré dimanche dernier son centenaire, Jean-Baptiste Malingué.
Soyez fiers d'être catholiques. L'évêque du Diofam, Mgr Joseph Moko, l'a répété dans l'homélie de la messe qu'il a présidée le dimanche 22 mai dans la cour de la maison diocésaine du Diofa à Kinshasa. C'était la messe pour le centenaire de l'évangélisation du diocèse du Diofa. L'évêque a tenu à associer la communauté de la diaspora présente à Kinshasa avant la célébration avec tous les évêques de la province ecclésiastique de Kinshasa le dimanche de la Pentecôte 3 juin. À Ipamou, là où les premiers missionnaires jésuites sont arrivés en 1922 avant d'être suivis dès 1931 par les missionnaires Oblats de Marie Immaculée.
Si nous pouvions tous être à Ipamou et célébrer ce centenaire, Ipamou allait voir quelle a été sa fécondité en 100 ans.
Le centenaire sera célébré le jour de la Pentecôte et l'évêque a d'ores et déjà placé la célébration sous le signe de l'unité, de la communion dans l'Esprit Saint.
L'Église grandira jusqu'à ce qu'elle parle toutes les langues.
Pour dire que l'Église catholique rassemble justement les diverses tribus des territoires administratifs d'Idiofa, de Gungu et de Bulungu dans la province du Kwilu et d'Ilebo dans la province du Kasai. L'évêque d'Idiofa a d'ores et déjà annoncé les prochaines célébrations de centenaire à Kilembe en 2023 et à Mwilambongo en 2026. Jean-Baptiste Malenge Kalonzu pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
La Journée mondiale de l'Afrique est célébrée ce mercredi 25 mai. Cette journée marque l'anniversaire de la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine le 25 mai 1963, devenue Union africaine en 2009. Stanislas Kambashi pour nous en parler.
La Journée mondiale pour l'Afrique célèbre la signature des accords de l'Organisation de l'Unité africaine par les pères fondateurs de cette institution continentale le 25 mai 1963. Plusieurs initiatives ont été prises à travers les pays d'Afrique du monde entier pour marquer cette journée. Des messages des personnalités africaines ont aussi accompagné cette célébration. Le président en exercice de l'Union africaine a appelé à continuer à travailler pour faire de l'Afrique l'arbre de vie, comme l'invite l'hymne de l'Union africaine. Macky Sall a aussi invité la jeunesse africaine à porter haut la voix du continent pour faire de la souveraineté de l'Afrique une réalité qui confirme la vision des anciens. Dans son message publié sur le site de l'Organisation continentale, le président de la Commission africaine, Moussa Faki Mahamat, a relevé de nombreux maux dont souffrent les continents. Les défis du terrorisme, de l'extrémisme violent et de la criminalité transnationale, les trafics d'armes, la mauvaise gouvernance, la corruption, les conflits intercommunautaires, les chômages massifs des jeunes et la précarité persistante des femmes. À cela s'ajoutent les crises climatiques et énergétiques, sans oublier la crise alimentaire aggravée notamment par les conflits en Ukraine. Face à ces défis, le président de la Commission africaine a souligné les efforts de l'organisme dans la recherche de solutions, notamment la réforme institutionnelle de l'Union africaine engagée depuis 2016, la zone de libre-échange continentale africaine entrée en vigueur en 2021, les programmes détaillés pour le développement de l'agriculture africaine pour faire face à la crise alimentaire et nutritionnelle.
Plus de 70 migrants partis de Libye pour essayer de gagner clandestinement l'Europe sont portés disparus après le naufrage de leur embarcation au large de la Tunisie, a indiqué mercredi la garde nationale tunisienne. L'embarcation qui transportait une centaine de personnes a chaviré au large de Sfax, centre-est de la Tunisie. Des unités des gardes-côtes et de la marine ont pu sauver 24 migrants, selon Oussem Edine Djebabli, porte-parole de la garde nationale. Direction le Burkina Faso. Après 39 jours de recherche intensive, les secouristes ont retrouvé les corps sans vie des 4 des 8 mineurs coincés à des centaines de mètres sous terre dans la mine de zinc de Perkoa, a annoncé mercredi le gouvernement burkinabé. Tout en saluant les efforts des équipes de sauvetage, le gouvernement a présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes, aux travailleurs, aux responsables de la mine, ainsi qu'aux communautés locales. Le gouvernement gambien s'est dit prêt mercredi à faire juger en Gambie même l'ancien dictateur Yahya Jammeh, accusé d'une multitude de crimes pendant ses plus de 20 ans à la tête du pays. Le gouvernement a accepté les recommandations soumises en novembre 2021 par une commission qui a enquêté sur cette période, notamment de poursuites contre l'ancien président Yahya Jammeh pour une myriade de crimes commis entre 1994 et 2017. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère de la Justice. Quelques centaines de sympathisants de la gauche radicale sud-africaine ont manifesté mercredi à Pretoria pour que la France soit taxée d'impérialiste post-colonial quitte le continent africain. Aux couleurs du parti mené par Julius Malema, les combattants pour la liberté économique IFF, t-shirts et casquettes rouges avec un logo en forme d'Afrique, s'étaient rassemblés à quelques rues de l'ambassade de France. Dans un communiqué, l'ambassade a indiqué que la France est un partenaire solide de l'Afrique du Sud et qu'elle respecte pleinement l'intégrité, la souveraineté et l'indépendance de toutes les nations africaines.
Radio Vatican, Français-Afrique. Donatien Niembo.
Premier Africain à diriger l'Organisation mondiale de la santé, l'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus a été reconduit mardi pour un second mandat lors de l'Assemblée mondiale qui se tient à Genève. « Je suis fier d'être à l'OMS », a lancé le directeur général, remerciant les délégués pour leur confiance. Le premier mandat de ce spécialiste du paludisme, diplômé en immunologie et docteur en santé communautaire, a été notamment marqué par la bataille de l'OMS contre la pandémie de COVID-19 avec ses succès et ses échecs. Au Niger, l'escalade de la violence provoquée par les actions de groupes djihadistes présumés engendre depuis le début de l'année de nouveaux flux de déplacés dans la région de Tillabéri dans l'ouest du pays frontalière du Burkina Faso et du Mali, a alerté mardi l'ONU. Depuis avril, c'est 34 746 personnes vivant dans des zones frontalières avec le Burkina Faso et le Mali qui ont été forcées de se déplacer pour s'installer dans des endroits plus sécurisés, a indiqué un rapport du Bureau des affaires humanitaires de l'ONU. Des combats ont éclaté mardi à une vingtaine de kilomètres au nord de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, au lendemain d'accusations rwandaises contre l'armée congolaise, ont fait savoir des responsables locaux. Boniface Kagumio, bourgmestre de la commune de Kibumba, une des localités touchées, a accusé les rebelles du M23 en conflit avec l'armée dans cette province frontalière du Rwanda et de l'Ouganda d'être à l'origine de l'attaque d'une position militaire dans cette zone de Bumba. Ce sont des Rwandais qui ont attaqué les phares d'essai. Il y a deux blessés parmi les civils, a de son côté déclaré Augustin Mirere, chef de la localité d'Erubiranga, également ciblé. Le principal syndicat tchadien a appelé à une grève illimitée à partir de mercredi pour demander la libération immédiate et sans condition des 6 responsables de l'opposition incarcérés après une manifestation le 14 mai contre la France, a annoncé mardi l'Union des syndicats du Tchad. Cette grève illimitée devra être observée sur toute l'étendue du territoire national avec un service minimum dans les hôpitaux, selon un communiqué de la centrale syndicale. Bouclons cette page d'actualité avec la Guinée. Le Front National pour la Défense de la Constitution s'inquiète du risque de fuite de l'ancien président déchu à la faveur de son déplacement à l'étranger récemment autorisé par la junte pour des raisons médicales, a fait savoir mardi un des avocats de cette coalition guinéenne qui a combattu Alpha Condé pendant des mois. En effet, l'ex-président guinéen s'est envolé samedi pour la Turquie après avoir été autorisé à aller se faire soigner à l'étranger. Il a quitté le pays malgré les poursuites engagées début mai contre lui pour assassinat, acte de torture ou enlèvement. Le Front National pour la Défense de la Constitution était à l'origine de ces poursuites.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
C'est donc la place à présent à Stanislas Kambashi qui nous présente le magazine sur les organisations internationales et la solidarité.
Les organisations internationales au service de la coopération, du développement et de la solidarité entre les peuples.
Notre magazine concerne les initiatives des organisations internationales pour une réponse efficace et solidaire aux conséquences alimentaires de la guerre en Ukraine. Les conflits armés engagés en Ukraine depuis 4 mois continuent d'exacerber une crise alimentaire sans précédent. L'impact de cette guerre va bien au-delà des frontières ukrainiennes. Dans le monde entier, tous les pays sont affectés par la hausse des coûts des produits agricoles. Mais il est plus particulièrement sensible pour la population de plusieurs pays en développement dans un contexte de précarité et de grande insécurité alimentaire et de malnutrition. La situation était déjà préoccupante avant la guerre en Ukraine. Sur les plans mondiaux, environ 800 millions de personnes souffrent de la faim selon les dernières estimations disponibles. Fin 2021, 193 millions de personnes étaient confrontées à une situation de crise alimentaire dans 53 pays ou territoires. Les conflits actuels provoquent davantage des conséquences déstabilisatrices sur la sécurité alimentaire en raison de l'importance de l'Ukraine et de la Russie dans les échanges commerciaux agricoles et alimentaires. Les deux pays représentaient environ 30% des exportations de blé tendre et 13% des exportations de maïs dans le monde en 2021, selon la FAO. À cela s'ajoutent d'autres conséquences indirectes, comme la pénurie des carburants, mais également d'engrais, des produits phytosanitaires et des semences. Cette situation est extrêmement pénalisante pour certains pays d'Afrique, du Proche et du Moyen-Orient, qui sont fortement dépendants des exportations agricoles de la Russie ou de l'Ukraine, pour les céréales, les huiles végétales, ou encore des engrais. Face à cette situation, plusieurs organisations internationales se sont mobilisées et continuent à se mobiliser dans la recherche des solutions alternatives. L'Union européenne s'est montrée très active dans ce sens, convaincue que la réponse aux crises alimentaires, pour être efficace, doit être rapide, solidaire et multilatérale. En mars 2022, la France, en sa qualité de présidente du Conseil de l'Union européenne, a présenté l'initiative FARM, Food and Agriculture Resilience Mission, pour la situation alimentaire des pays les plus vulnérables. Elle inscrit son action au travers de plusieurs instances multilatérales, comme le PAM, la FAO, le G7 et les FIDA. En avril 2022, une session extraordinaire du Conseil de la FAO a été convoquée à la demande d'une quarantaine d'États membres, dont les 27 pays de l'Union européenne. Cette réunion a permis l'adoption d'une décision coparrainée par 80 États membres, appelant la FAO à suivre étroitement les implications de la guerre sur la sécurité alimentaire mondiale et de présenter des plans à court, moyen et long terme pour répondre à ces défis. Dans le cadre du G7 et des Nations Unies, la proposition est de travailler avec les pays partenaires, notamment ceux africains, afin de répondre aux besoins identifiés localement. Les efforts entrepris par la présidence allemande avec le lancement de la Global Alliance for Food Security et par les États-Unis dans le cadre du Call to Action sont essentiels en vue de rallier l'ensemble des partenaires de bonne volonté à nos objectifs, y compris du côté du secteur privé, a relevé la présidence française de l'Union européenne. Pour répondre également aux besoins immédiats des Ukrainiens et particulièrement des agriculteurs, la France finance en particulier un projet de la FAO qui vise spécifiquement à soutenir les secteurs agricoles ukrainiens désormais fragilisés. Il s'agit d'un enjeu de très court terme, alors que la FAO estime que le rendement de la prochaine récolte des blés en Ukraine pourrait être inférieur à 28% par rapport à celle de l'année passée. Par ailleurs, la proposition française est de structurer l'initiative Food and Agriculture Resilience Mission, le projet FARM, autour des 3 piliers avec l'appui des organisations internationales. Un pilier commercial pour apaiser les tensions sur les marchés agricoles. Un pilier de solidarité pour se préparer dès l'été 2022 aux premiers effets de la guerre en Ukraine et à une baisse potentiellement durable des volumes exportés de ce pays dont dépendent de nombreux pays d'Afrique et du Moyen-Orient, ainsi que le PAM pour ses opérations. Troisièmement, un pilier pour développer la production dans les pays les plus concernés. Fort de son expérience dans ce domaine, le FIDA, le Fonds international pour le développement agricole, a fait une proposition concrète. Pour accroître les investissements dans les systèmes de production durables et résilients, engager un travail de fond sur les habitudes alimentaires en vue de réduire les dépendances aux exports, renforcer l'intégration des marchés locaux et régionaux, et enfin lutter contre les pertes et les gaspillages alimentaires. L'objectif immédiat est de réunir l'ensemble des bailleurs intéressés autour du rôle de coordination du FIDA afin de lui permettre de démarrer son action sur les plans opérationnels et financiers.
Place à la culture avec Françoise Niamien.
Musique. Commençons notre rubrique par la célébration de la Journée mondiale de l'Afrique. Célébrée chaque 25 mai, cette journée commémore la signature des accords de l'EUA, l'Organisation de l'Unité africaine, le 25 mai 1963, à laquelle succède l'UA, l'Union africaine, en 2002. Cette journée a pour objectif de rapprocher les peuples africains, raffermir leur foi en intégration et de populariser l'idéal d'union du continent. De nombreuses activités et cérémonies sont organisées à travers le continent et le monde entier. C'est dans ce cadre que l'UNESCO a organisé à son siège à Paris du 23 au 25 mai la Semaine africaine sur la thématique « L'autosuffisance, la résilience et le développement économique de l'Afrique ». Cette semaine a été marquée par plusieurs activités, notamment des conférences, des tables rondes, des expositions d'art, artisanat ainsi que des projections de films documentaires. La semaine africaine s'est ouverte par Maria Toukone, la ministre ivoirienne de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Représentant la directrice générale Audrey Azoulay, le directeur général adjoint de l'UNESCO, Zing Kou, a indiqué que l'Afrique est au cœur de l'action de l'UNESCO. C'est pourquoi elle a agi avec sa coalition mondiale de l'éducation dans 100 pays en Afrique pour soutenir la continuité pédagogique depuis le début de la pandémie de COVID-19. Répondre à cette frise dans toutes ses dimensions, selon lui, est tout le sens de l'action de l'UNESCO dans l'éducation, la culture, les sciences et l'information. Évoquant la Journée mondiale de l'Afrique, le cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque de Ouagadougou au Burkina Faso et président du CHEAM, le symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, a indiqué que cette journée devrait renvoyer les Africains à leur responsabilité vis-à-vis de leur continent. On l'écoute.
Une journée de l'Afrique renvoie l'Afrique aux Africains. Voilà, au niveau évangélisation, l'accomplissement du mandat missionnaire laissé par Jésus aux siens, au niveau aussi de la prise en charge de l'Afrique par elle-même. Voilà autant de paramètres dont il faut certainement tenir compte. Le 31 juillet 1969, à Kampala, la création du CHEAM, le pape Paul VI insistait, « Vous, Africains, vous êtes désormais vos propres missionnaires. » Alors cela nous renvoie à notre responsabilité missionnaire. Nous ne devons pas tout attendre de l'extérieur. Soyez vos propres missionnaires dans la double dimension ad intra, ad extra. Ad intra, ben dans les paroisses, dans les diocèses, les pays, régions. Ad extra, l'Afrique a aussi quelque chose à apporter au niveau international, en Europe, en Asie, etc. Voilà, donc ça c'est du point de vue évangélisation. L'autre volet, c'est certainement les grands défis auxquels sont confrontés notre continent. Vous prenez le deuxième synode pour l'Afrique du Sud, convoqué par le pape Benoît XVI, avec l'exhortation post-synodale Africhémonos. Voilà, donc, on met en exergue tous les grands défis de notre Afrique. La réconciliation, la cohésion sociale, la justice, la paix. Voilà, pour ne citer que cela. Voilà des grands défis. Sans compter les grands problèmes de développement, d'éducation, etc., qui constituent de véritables défis pour notre continent africain. Donc une journée comme celle-là devrait renvoyer l'Afrique et les Africains à leurs responsabilités, tout en négligeant pas quand même la responsabilité aussi extérieure, la coopération, la collaboration comme bien nécessaire pour arriver à un monde plus beau, un monde plus sain, un monde plus solidaire.
Cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque de Ouagadougou et président du CHEAM. La 14e édition de la Biennale d'art africain contemporain, devenue la plus importante manifestation du genre sur le continent, s'est ouverte jeudi 12 mai à Dakar en présence du président sénégalais Macky Sall, qui a remis le grand prix Léopold Sédar Senghor à un artiste éthiopien. Après un report en 2020 à cause de la Covid, cette 14e édition accueille jusqu'au 21 juin le meilleur de la création contemporaine du continent. Peinture, sculpture, vidéo, installation monumentale et performance. C'est une fête des arts visuels, de l'esprit et du génie humain, un rendez-vous qui résiste aux aléas du temps depuis plus de 30 ans, a déclaré Mustapha Ndiaye, président du comité d'organisation de la Biennale, lors de la cérémonie organisée au Grand Théâtre de Dakar avec la participation du groupe sénégalais Orchestre Baobab, né dans les années 1970. Près de 300 expositions à Dakar et sur les îles de Ngora et Gorée et une grosse centaine dans d'autres villes du pays et pays de la diaspora sont au programme et environ 350 projets dans le OFF de cette biennale. L'exposition internationale présente dans un ancien palais de justice 59 artistes visuels de la sélection officielle venus de 28 pays, dont 16 Africains. La Biennale de Dakar est aujourd'hui la troisième biennale au monde selon les organisateurs. L'édition 2018 avait drainé près de 250 000 visiteurs, dont plus de 50 000 venus de l'étranger. Les organisateurs tablent sur la même fréquentation en 2022.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Mesdames et messieurs, amis auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de notre programme que Donatien Nyumbu a eu le plaisir de vous présenter. Je vous dis au revoir et à la prochaine.
Ma vie c'est le Christ et son évangile. Je veux être à lui, être son ami. Je lui donne ma vie, tout ce que je suis, car il m'a aimé et m'a racheté. Ô Seigneur, accueille-moi. Car tu es mon roi, oh quelle joie, et toujours à toi, oh Seigneur, accueille-moi. Car tu es mon roi, oh quelle joie, et toujours à toi. Comme un bon berger, il m'a tant cherché et enfin trouvé. Je suis comblé, je veux le louer, je veux l'acclamer, partout annoncer qu'il est la vérité. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi, oh quelle joie, et toujours à toi, ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi, oh. Quelle joie d'être toujours à toi.